Hey, bonjour mes petits raisins secs belligérants du Turkménistan. Ça a été tellement long à faire mon setting. Je sais pas pourquoi c'était là enfin, mais on est là pour parler des combats qui viennent de se terminer. Méchante belle carte, honnêtement. Écoutez, avant de commencer de parler de l'action en tant que telle qui s'est déroulée, man, ça fait du bien de juste avoir des bons combats qui nous intéressent, puis dans lesquels on est investi. Tu sais, une carte genre que. Tu t'assis devant, là, pis t'es genre, ah oh, ouais, ça va être bon, ça. J'ai hâte de voir tel combat. J'ai hâte de voir tel combat. Puis il y a des affaires qui t'intéressent actuellement sur la carte. Puis c'était vraiment le cas cet après-midi. Puis honnêtement, je pense qu'on a eu le droit à vraiment un très bon spectacle en général. Et puis dans le main event de la soirée, mesdames, messieurs, Glover Teixeira, le bonhomme de 42 ans, a complètement pété Jan Błachowicz, si vous voulez que je sois bien honnête avec vous, en route vers une victoire par soumission Renekton Choke au deuxième round pour devenir le champion light heavyweight de l'UFC, le deuxième plus vieux champion de tous les temps dans l'UFC. Et puis, man, quelle performance! Genre, quasiment sur une des premières échanges du combat au premier round, Glover Teixeira réussit à lander un beau takedown plein milieu de la cage, contrôle le round-là. Puis tu vois que Jan Błachowicz, tu sais, il stresse pas trop avec ça, là, dans le sens que oui, il vient de se faire takedown, mais il essaie de contrôler les bras. Tu vois vraiment qu'il fait pas trop d'efforts pour se relever debout. Il semblait vouloir conserver son énergie pour les rounds plus loin, les autres rounds. Dans le fond, Chris était le premier, puis Glover a réussi à quand même lander du bon ground and pound de la garde, même si Yann faisait un bon travail pour le contrôler d'être là. Et puis, le round s'est terminé. Puis là, on s'est dit, ah, ben, Glover a gagné le prochain round, mais crime, il faut qu'il lande 5, 4 autres takedowns de même s'il veut gagner le combat. Et puis, dès le début du deuxième round, il n'a pas été capable de lander son takedown. Yann a défendu un ou deux beaux takedowns. Il landait des beaux jabs, c'était là. Il a un très bon jab, Jan Błachowicz. Et puis, un moment donné, c'est littéralement une shot de Glover Teixeira qui a sonné Jan Błachowicz. Puis, il a dû se mettre à reculer. Puis, c'est à cause de ce coup de poing-là que quelques instants plus tard, il a réussi à aller chercher le deuxième takedown qui s'est avéré en fait. Pratiquement Jan Błachowicz qui se lance sur son dos avec une Kimura grip, mais tu sais, c'était vraiment bizarre. On dirait que Jan, sa réaction nous montrait qu'il était peut-être encore affecté par le gros punch qu'il venait de manger peut-être 20 secondes avant. Et puis, ben écoute, tu te lances pas sur ton dos en side control contre Glover Teixeira sans payer le prix. Et puis, ça n'a pas été long que tu as vu Glover Teixeira, tu sais, smasher ses hanches. Prendre le full mount, à partir du full mount, Jan Błachowicz n'a pas eu le choix de donner le dos, puis tout de suite, il te l'a étalé sur tout son long, puis il a passé un choke qui a provoqué un tap extrêmement rapide de Jan Błachowicz. Honnêtement, tap très, très, très rapide, là, le gars. Dès que le choke a été sink-in, tu vois qu'il était prêt à pacter les petits, puis partir. Ce qui est bizarre, parce qu'actuellement, Jan Błachowicz est immensément tough. Fait que c'est un peu étrange, mais honnêtement, Glover, je suis immensément surpris de juste voir comment il a réussi à avoir du succès là, comme ça avec ses takedowns, du succès à couper la distance, puis juste, boum, aller chercher ses takedowns, se retrouver au sol, se retrouver dans les positions qu'il voulait être. Puis honnêtement, c'était vraiment cool de voir Glover Teixeira remporter la belt du UFC à son âge. C'est quelque chose, vraiment un accomplissement que. Je pense que c'est juste Randy Couture qui a gagné une ceinture plus vieux que lui. Puis on s'entend que Randy Couture, encore à ce jour, reste probablement un des 10 plus grands combattants de l'histoire du sport. Là, le gars, il a gagné les belts plusieurs fois dans plusieurs divisions et ça après 40 ans. C'est un GOAT, le gars. Puis de Glover qui, à 42 ans, réussit à gagner cette ceinture-là. Et puis, c'est malade mental, man. C'est super cool. Je suis content pour lui. Puis savez-vous quoi? On parlera même pas de la suite à soir. Parce que la suite, elle sera peut-être pas très belle pour Glover. Fait qu'on veut juste profiter du moment, profiter de l'accomplissement, profiter du fait que crime, c'est un combattant qui se bat depuis 2002. Ça fait littéralement pratiquement 20 ans qu'il se bat professionnellement. Et puis, ça a pris tellement de temps avant que le gars vienne dans l'UFC, tout simplement parce que. Il est aux États-Unis, il a dû partir chez eux au Brésil pour quelque chose, puis il n'a pas été capable de revenir aux États-Unis parce que je pense qu'il était resté aux États-Unis trop longtemps pour ce que son visa lui permettait. Fait que quand il essaie de revenir, la commission, de, tu sais, ceux qui octroient les visas, là, étaient comme, ouais, ben, tu nous as un peu crossé la première fois, fait qu'on te laissera pas revenir. Puis là, il a dû se battre pendant des années. Puis, tu sais, longtemps, le book sur Glover Teixeira, ça a été son prime, il l'a passé à l'extérieur de l'UFC, à ne pas pouvoir venir aux États-Unis, à ne pas pouvoir se battre contre les meilleurs au monde. Puis, ça nous a un peu comme prouvé ça, entre guillemets, parce que là, aujourd'hui, on sait que c'était pas vrai, finalement, mais quand finalement il est arrivé dans l'UFC, il était très bon, s'est rapidement frayé un chemin au title shot, puis John Jones l'a juste genre fait « fuck you to it », puis il l'a battu à son propre jeu, là, dans le clinch avec des coups de coude, puis tout pendant 5 rounds. C'est une domination complète, puis on s'est dit « ben ouais, c'était ça finalement, Glover, c'est bel et bien, bel et bien passé son prime à ne pas pouvoir venir aux États-Unis, à ne pas pouvoir se battre dans l'UFC ». Puis là, après ça, tu sais, contre John Jones, il y a eu des up and down, disons, puis là, un moment donné, il commençait à un peu plus perdre, bien qu'il n'a jamais perdu contre des mauvais fighters, tu sais, Corey Anderson, Anthony Johnson, tous des bons fighters. Et puis, écoute, il y a eu la renaissance en fin de carrière qui vient scraper toute cette théorie-là, honnêtement. Là, cette théorie-là, elle n'existe plus parce que Glover Teixeira, à l'âge de comme 40 ans, 39 ans, a décidé que ça ne se passerait pas de même, puis il est parti sur une streak qui l'a amené jusqu'aujourd'hui, où il vient tout juste d'avoir 42 ans, puis il vient de battre Jan Błachowicz pour être le champion du monde de l'UFC, le meilleur light heavyweight au monde, bien que Corey Anderson, puis le dude à Fedor, à Bellator, va probablement vouloir dire le contraire, puis honnêtement, ils n'ont peut-être pas tort, mais je m'en fous, je veux juste profiter du moment. Glover a gagné une belt dans l'UFC, c'est absolument malade, puis c'est ça. Parlons du co-main event. Je vous ai dit, c'était mon combat le plus attendu de l'année, puis man, ça pouvait être rien de moins que ça. Quel combat absolument incroyable. Quel combattant absolument incroyable. Ces deux gars-là, Corey Sandhagen, il est vraiment arrivé avec le volume. Tu sais, dans ses derniers combats, vous cherchez un peu plus le knockout, là, les highlight reels, les gros flying, les grosses séquences. Oh, regarde, le spinning back kick, ces affaires-là. Là, il est revenu à son bon vieux self. Puis il est arrivé avec le volume. Puis il a commencé très, très fort sur Peter Yan. Chose qu'on s'attendait à ce qui arrive, veux pas, parce que Peter Yan, c'est un gars qui prend, je veux pas dire le premier round off, parce qu'il prend vraiment pas off, parce que c'est le round où il accumule toutes ces informations qui vont lui dicter son game plan. J'ai l'impression que c'est pas un combattant qui arrive nécessairement avec un game plan, parce que sa plus grande force, selon moi, c'est juste de faire des excellents reads, puis de dire, OK, lui, il fait ça. Donc, si je fais telle et telle chose, je vais réussir à le battre. Puis là, dès le deuxième round, on a vu qu'il a commencé à augmenter la cadence. Puis il n'a pas le choix d'augmenter la cadence si tôt, parce que Corey Sandhagen, c'était juste un malade mental qui lançait 70 coups de poing par round. Puis c'était ça. Puis on a le boy Jourdain qui est un grand fan de Peter Yan aussi, man. Probablement là, deux de mes cinq combattants préférés, là, Peter Yan et Corey Sandhagen en ce moment. Ces gars-là sont incroyables. Puis la façon dont Peter Yan a réussi un peu à résoudre l'énigme Corey Sandhagen, d'un, c'est avec son body kick absolument horrible. Là, c'est dégueulasse d'entendre ça, man. Le body kick rentre une vitesse, une vélocité, puis la puissance à laquelle il a frappé le gars au corps, man. Absolument ridicule. Mais aussi, il leapait avec genre un gros crochet ou une grosse overhand, puis il lançait un hook de la même main juste après, fait qu'il coupait la distance avec le gros overhand, ça faisait réagir Corey qui se déplaçait toujours d'un côté puis de l'autre, puis il l'attendait avec un crochet de la même main juste en arrière, puis en arrière de ce crochet-là, naturellement, il y avait quatre autres punches parce que ce gars-là ne fait que lancer en combinaison. Puis encore une fois, Peter Yan, écoute, Corey Sandhagen est un fighter sensationnel. Il a gagné le premier round. Il y a des gens qui donneraient le deuxième round. Ça ne me dérange pas si vous voulez donner le deuxième round. Mais moi, je pense qu'à partir du deuxième round, ça a été excessivement serré. Mais on a vu Peter Yan juste, encore une fois, trouver la solution à un des fighters les plus techniques et les plus excitants dans le sport. Cette division-là, les boys, man, c'est absolument incroyable. Pour vrai, 135 livres, c'est en train de dépasser 155 livres straight up pour moi. Parce que oui, 155 livres a vraiment des très bons combattants dont on va parler dans le combat juste après. Mais, man, une division que vos top guys, c'est Peter Yan, Corey Sandhagen, TJ Dillashaw, puis tous les autres gars qui sont en train de pousser dans cette division-là, c'est absolument magique, man. Fait que les bantamweight, c'est littéralement Absolument fou. Puis on a Charles qui nous dit il n'y a pas un frein pour commencer explosif quand Sterling laisse frapper dans le vide, puis il les pick en part ensuite. C'est exactement ça. Un gars qui est tellement intelligent dans la façon qui approche le combat, puis il est capable de vraiment s'adapter. Puis son cardio est épais, puis le cardio à Corey Sandhagen est épais. Voir ces deux gars-là dans leur coin après le quatrième round qui sont là. Puis, man, à la fin du cinquième, tu aurais pu les rebooker pour un rematch, tu en aurais fait cinq autres drettes là. Ces gars-là étaient prêts à y aller pour des années encore. Puis, honnêtement, man, sont tellement bons, sont tellement incroyables. Je le savais que ça allait être mon combat préféré de l'année. Je le savais à seconde près qu'ils me l'ont dit. Puis c'est mon combat préféré de l'année. Puis je suis tellement un fanboy de Sandhagen, puis de cette division-là, puis de Peter Yan, puis tous ces dudes-là, que mon deuxième combat préféré de l'année, c'est 100% Sandhagen Dillashaw, là. Mais on a eu l'action qu'on a vue technique et incroyable d'un Dillashaw Sandhagen sans tous les moments où TJ s'est servi de sa lutte pour coller le dos d'un peu dans la cage, qui a fait qu'il a donné la décision à Dillashaw au final, mais ces moments de pause un peu moins excitantes qu'on a eu dans ce combat-là, on les a jamais eus dans le combat d'Yan Sandhagen. Ça a juste été back and forth de l'action. Sandhagen qui bouge, qui lance du volume. Yan qui counter comme un fou, comme un malade. C'était absolument incroyable. Genre, dès que ce combat-là va débloquer sur UFC Fight Pass, je vais le réécouter là, une fois par mois. Ça va être un de mes favorites pendant un bout. Puis, quel fight, man. Vraiment, là, quel combat. Puis, tu sais, des fois, j'étais à des grosses guerres avec du monde qui se drop et des momentum swings, tout, puis c'est bon, mais moi, on dirait qu'il n'y a rien que j'aime plus qu'un combat de même où les gars sont tellement, tu sais, même quand il se passe rien, même quand ils ne sont pas en train de se frapper, juste les gars qui switch stance puis qui jouent avec leurs mains pour genre gagner la position pour lander un sneaky punch ou quelque chose, et à chaque instant de ce combat-là, il se passe quelque chose, même s'ils ne sont pas en train de se frapper. Il n'y a aucune pause, là. C'est pas Volkov-Tibura, là. C'est vraiment absolument incroyable. Puis écoute, je pourrais parler pendant deux heures de ce combat-là. Fait qu'on va passer à l'autre, sur lequel on n'aura pas grand-chose à dire, honnêtement. Parce que tabarnouche, man. Genre, j'aurais été content avec Dan Hooker gang. J'aime beaucoup Islam Makhachev aussi, là, je vais vous le dire. Mais comme je vous dis à chaque fois, j'ai de la misère un peu à le checker puis juste pas voir comme la version Walmart de Khabib. Le gars est excessivement technique, peut-être même plus technique que Khabib parce qu'il n'y a pas le choix. Khabib, c'est un athlète hors du commun qui, des fois, il était tellement rapide, tellement explosif qu'il pouvait se permettre de ne pas faire le plus beau shot du monde puis il allait quand même finir dans tes jambes en 0.4 secondes puis tu n'allais quand même rien comprendre. Makhachev, lui, il n'est pas athlétique comme Khabib. Il n'a pas cette explosion-là, cette force physique-là, cette rapidité-là qui est littéralement autre. Fait qu'il faut qu'il soit plus technique. Il faut qu'il set up mieux ses affaires. Puis c'est beau à voir, c'est le fun, mais j'ai juste vraiment l'impression de voir la version un peu cheap de Khabib. Mais la version un peu cheap de Khabib va peut-être être championne dans cette division-là. Là. Après une performance comme ça contre Dan Hooker, où littéralement la première fois dans le combat que Dan Hooker a essayé de lancer un coup de poing, Makhachev a passé en dessous, puis le takedown, puis ça n'a pas été long. Il a pris la position dominante. Il a passé un Kimura. Je trouve ça horrible, genre horrible, parce que moi, j'ai pas des bonnes épaules. Okay? Je suis un gars flexible, mais j'ai pas des bonnes épaules. C'est la partie faible de mon corps, puis des Kimura, je résiste pas beaucoup à ça. Honnêtement, à Jules, si tu veux ça, mettre ma main en arrière de moi, c'est le move que je vais pas trop m'ostiner avec, puis taper le plus rapidement, puis genre de voir en plus l'angle de la caméra était parfait, puis tu voyais le bras de Dan Hooker qui était twisté, c'était dégueulasse, puis ça ressemblait drôlement justement à la performance de Khabib contre Michael Johnson, moins le parlage puis le ground and pound sauvage. C'est ça la différence tout majeure entre Islam Makhachev puis Khabib, c'est que Khabib, ce gars-là était capable de te frapper d'en face en passant à ta garde. Il était tellement actif, tellement, genre, faisait beaucoup de dommages au sol avec ses poings tout en passant à ta garde, en faisant des choses de grappling. D'habitude, les gens ne sont pas capables de faire les deux en même temps. Lui, somehow, il était capable de faire ça. Makhachev, il est vraiment en plus submission grappling oriented. C'est pas un gars qui va lander énormément de dommages avec son ground and pound pis tout, mais bref, man. Grosse performance. Shout out à je m'en allais l'appeler Balls Hooker, mais Dan Hooker qui a des balls d'avoir pris ce combat-là à un mois de préavis de même contre Islam Makhachev, que on n'avait jamais vu Dan Hooker affronter un lutteur élite comme ça. Fait qu'on ne pouvait pas dire « Ah, Dan Hooker n'est pas bon contre les lutteurs ». On se disait bien que ce n'était pas un bon style match-up. Mais bref, quelle superbe performance d'Islam Makhachev qui, là, il veut un title shot. Puis honnêtement, si l'UFC donne le title shot avant le gagnant de Chandler Gaethje, moi, ça ne me dérange pas parce qu'il est sur une énorme winning streak. Puis ça prend un peu de nouveau sang là, dans le top de cette division-là. Fait que je serais pas dans le compte ça. Volkov Tybura, je veux même pas en parler. J'ai même pas envie d'en parler. Li Jingyang, Hamzat Chimaev, ça et tout, absolument genre incroyable. Puis c'est l'aspect COVID là, qui me faisait peur parce qu'on a vu Cody Garbrandt qui a eu la COVID pas mal. Il y en a beaucoup de fighters qui l'ont juste pogné de même et ils n'ont pas vraiment eu d'effet ni rien. Mais il y en a quelques-uns qui ont eu beaucoup d'effets de la COVID puis qui ont été malades puis toutes ces affaires-là, puis dont Cody Garbrandt, dont Gilbert Burns. Puis on dirait que dans leur performance, leur premier combat en revenant de ça, c'était difficile pour eux. T'sais, honnêtement, on n'a pas vu la meilleure version de Gilbert Burns quand il est revenu de la COVID. La même affaire pour Cody Garbrandt. Fait que c'est ça qui me faisait un peu peur pour Hamzat. Puis j'avais pas à avoir peur pendant tout parce que, man, c'est un animal, c'est un monstre, ce gars-là. Écoute, tout le talk là, avant ce combat-là de oh, il n'a pas vraiment affronté personne, je suis bien d'accord, mais des fois, il y a des skills que tu regardes et ça ne ment juste pas. Puis ça ne mentait pas les skills de Hamzat. Puis là, vous l'avez vu contre un gars qui a knocké Santiago Ponzinibbio. Tu sais, Li Jingyang est vraiment très, très, très legit. Puis dans la division actuelle, c'est vraiment, oui, un des 15 meilleurs au monde. Et puis Hamzat Chimaev l'a littéralement pris, là, il l'a levé, il l'a emmené dans le coin de Dana et Hasbulla. Il l'a droppé là. En parlant à Dana, puis il l'a complètement décalissé. Il l'a complètement décalissé. Il a pris son dos, il l'a choqué comme si de rien n'était. Il a encore mangé comme un coup de poing, même pas. C'est ridicule. Ce gars-là est vraiment incroyable. Ce gars-là est vraiment next level. Et puis, man, que dire de plus? The hype is real. C'est juste ce qu'il y a à dire. The hype is real. Puis si le hype train avait diminué un peu parce qu'il y a eu une longue absence à cause de celle qui était malade, puis tout, je pense que là, le hype train peut recommencer parce que ce gars-là est vraiment spécial. Vraiment, vraiment spécial. Des skills comme. C'est justement un peu comme je disais à Greg. C'est un genre de combattant à la Khabib avec son style de grappling et tout, mais qui est vraiment bien meilleur debout. Là. C'est beaucoup plus évolué. Ses punches sont beaux, sont clean. Mais c'est le même genre d'athlète. Là. C'est le même genre de gars super rapide, super explosif. Un athlète spécial en plus de toutes les skills qu'il a. Fait qu'il va aller loin. Là. Honnêtement, si vous me demandez ce qui est next pour lui, moi, je pense que le combat contre Neil Magny, ça fait de l'allure. Mais si l'UFC veut vraiment le push to the moon, ça ne me dérangerait pas qu'il skip genre ce crop-là de Magny, Michael qui est ça, puis qui monte directement un combat contre Gilbert Burns ou peut-être le perdant de Leon Edwards contre Jorge Masvidal. Puis, man, je peux même pas dire que je sais. Demain matin, le combat Leon Edwards contre Hamzat arrive après cette performance-là. Je pense que je pique Hamzat. Honnêtement, Edwards est bon, lui aussi est athlétique, il est fort, il est complet, mais Chimaev a vraiment l'air d'un tout autre animal, man. Puis, c'est vraiment. Un excellent fighter qu'on va entendre parler pendant très longtemps. Avant qu'on passe au prochain combat, j'ai envie de parler d'Hasbulla un peu parce que, man, on s'entend là, entre vous et moi, c'est l'attraction principale de la carte. Là. Tous les fighters moindrement un peu russes allaient voir Hasbulla. Il y avait Hasbulla partout sur Twitter, sur tous les médias sociaux de l'UFC. De Khabib Esti qui tient Hasbulla dans les airs et qui lève comme la Coupe Stanley après que Islam Makhachev ait gagné. C'était vraiment, je sais pas, il y a quoi, ce jeune-là. Moi, tout, je l'aime full, Hasbulla. Je le croquerais. Je le trouve tellement beau. Je le trouve tellement cute. Même s'il punch tout le monde d'en face quand il les voit, je le trouve tellement hilarant. Puis, il y a quelque chose de magnétique, ce jeune-là, parce que tabarnouche, il est dans la place, puis tu sais, c'est lui qui vole le show, littéralement. Puis c'est pas comme si on n'avait pas un bon show, là. C'est pas les cartes des semaines d'avant où c'est littéralement de la merde, puis on n'attend rien que le main event, puis même pas dans certains cas. Puis ça, mort, si t'as Hasbulla qui est partout, puis qui vole complètement le show. Sacrifice, man. Quel homme, Hasbulla. Pour vrai, il est probablement riche, là, à cette heure, je vous dirais, là, après tout le succès qu'il a vu cette année, il doit avoir plein de brand deals, puis tout, mais il me semble que je l'achèterais, man. Si je pouvais, je l'achèterais pour que ce soit mon ami, man. Je le paierais pour que tu l'avais, Casti. Il est chill, Hasbulla. Je l'aime. Sinon, Magomed Ankalaev, Volkan Ozdemir, ça m'a fait un peu rire comme combat parce que c'est exactement le genre de combat que Volkan Ozdemir veut habituellement. Tu sais, que ça reste quand même at range, que les deux gars sont composed, là, sont relax, ne lancent pas trop de volume, essaient vraiment de piquer leur shot. Et puis, d'habitude, c'est Volkan qui gagne ces combats-là par split decision louche, oui, souvent, mais c'est lui qui gagne. Puis, honnêtement, je pense que Magomed, quand il l'a gelé au premier round, il a vraiment mis une peur là, dans Volkan. Puis, Volkan a été tellement hésitant pour le restant du combat que Ankalaev n'a jamais eu là, à lever d'un cran. Ce qui a donné un combat ordinaire. Là, je ne vous le cacherai pas, ça n'a pas été le meilleur des fights parce que Volkan n'a pas forcé Ankalaev à justement monter l'intensité d'un cran. Puis, Ankalaev, on le sait que il est incroyable comme combattant. Il est très bon, il est très skilled. Lui, avec, peut devenir un sérieux contender à 205 livres, mais c'est pas quelqu'un qui va lever l'intensité d'un cran si tu le forces pas à le faire. Puis on l'a vu contre Jan Kutelaba. Kutelaba l'a forcé à être la personne la plus intense du monde. Puis man, il l'a tué, là, il te l'a allumé quand il a eu la chance de le knocker pour vrai là, dans leur deuxième combat. Il l'a knocké pour vrai. Mais si t'es juste Volkan Ozdemir, puis tu t'es fait faire mal au premier round, puis t'es un peu hésitant, ben Ankalaev va juste rester à range, puis te pick apart avec un très slow pace de là dans un combat assez ordinaire. Fait que c'est ça qui arrive. Sinon, shout out à Virna Jandiroba qui sort Sticky Walkout sur Island Boy. C'était complètement hilarant, mais en tout cas, à part le premier round où elle a fait mal à Amanda Ribas, elle était moyen dans le combat. Là, je dirais Ribas a quand même assez aisément gagné les deux derniers rounds avec du bon volume, du bon striking. J'ai l'impression que le problème majeur avec Ribas, c'est que d'un, elle n'a pas énormément de power dans ses mains. Fait que des strikers plus techniques sont capables de mieux set-up leur shot ou des filles plus puissantes vont être capables d'y faire mal, voire Marina Rodriguez. Mais sinon, elle est très bonne. Elle n'a pas un gros menton aussi. Là. Se faire sonner par Virna Jandiroba, je ne pense pas que ça te dit que tu as un énorme menton. Mais sinon, c'est une bonne petite combattante qui garde un bon pace, qui est capable de gagner des combats. Fait que, shout-out à elle, elle continue son ascension dans la division. Puis Virna, ben, je pense qu'elle est un peu condamnée à être comme la 10 à 15e meilleure fille dans cette division-là. Puis elle va pas mal battre toutes les filles en bas de tout ça sans jamais vraiment être capable de hang avec les filles qui sont fermement dans le top 10. Ensuite, Ricardo Ramos, Zubera Tugukov. Bon petit fight back and forth. J'ai l'impression que Zubera a réussi à se garder en avant à peu près tout le long du combat. Avec du bon striking, un peu plus d'activité. J'ai l'impression que c'est un autre combat où il y a... Je ne sais pas s'il a réussi à faire mal à Ramos tant que ça, mais il l'a rendu quand même hésitant par rapport à ce que Ramos est habituellement. Puis il a réussi à lander une couple de spinning shit, là, sa spinning elbow qui est notoire pour son knockout de Ayman Zahabi, mais c'est rendu qu'il en lance tellement dans ses combats que des fois, c'est un peu dur à voir. Bon petit combat back and forth, rien de vraiment spécial ici cependant. Ça nous mène à Albert Duraev, Roman Kopilov, ça, c'était quand même un bon fight, un bon back and forth. Le premier round, étrangement enough, sont restés principalement debout. Puis j'ai l'impression que c'est Duraev qui l'a gagné, ce round-là. Chose qui était comme pas nécessairement prévue. Ensuite, il y a eu le deuxième round où il a réussi à lander le takedown. Puis ça a clairement été un 18, je pense, pour Albert Duraev, qui s'est quand même beaucoup épuisé dans le processus de infliger un 18 à Roman Kopilov. Mais l'affaire, c'est que Roman Kopilov était probablement tout autant épuisé de s'être fait péter autant la gueule que Duraev l'était. Fait que le troisième round, ça a été bon. Ça a été un bon round back and forth où je pense que Kopilov a eu le plus de succès, mais c'était vraiment excessivement sloppy parce que les deux gars étaient gas the fuck out. Là. Vraiment gassed out to the max. Mais Kopilov a quand même réussi à bien se battre avec la fatigue. Je trouve qu'il a démontré des belles choses dans ce troisième round-là. Il n'a pas été en mesure de gagner le combat, mais revenir d'un round 18 en gagnant l'autre round, je pense que c'est quand même une belle victoire pour lui. Si on veut se trouver des victoires morales, les sept, en voilà une. Ensuite, ça, c'est un combat duquel on va vouloir parler, les boys, parce que je pense qu'on a vu le pire arbitre de l'histoire de l'humanité. Honnêtement, là, T'sais, oui, Benoît Saint-Denis, c'est un malade mental. Fait que même après, littéralement, ça a été fait finir trois fois. Il a réussi à monter un genre de comeback dans ce round-là. Mais à ce moment précis-là, j'étais chez mon ami Charlot, puis il n'y a pas de TSN. Fait qu'on écoutait sur UFC Fight Pass. Après ça, on l'a mis à RDS avec Pat Côté, puis Georges, puis Chartrand pour. Ce combat-là, puis est-ce qu'ils ont shit sur l'arbitre? Là? J'ai pas entendu le commentary de DC puis Felder, ça devait probablement être la même affaire, mais Chartrand, Pat, puis GSP ont chié partout sur le ref, littéralement, et avec raison. Mais comme Pat disait, oui, Benoît Saint-Denis est en train de faire un comeback, puis c'est incroyable en soi qu'il soit encore debout, puis capable de faire ce comeback-là, mais d'un autre côté, le combat n'aurait pas dû se rendre là. Parce que, littéralement, Benoît Saint-Denis s'est fait finir trois fois. Puis si l'arbitre avait moindrement un peu de concern pour sa sécurité, bien, Chris, il aurait arrêté le fight. C'était absolument de l'arbitrage horrible. Puis ça, c'est sans même parler du troisième round où il a littéralement enlevé un point à Dos Santos out of nowhere à cause d'un groin strike, oui, clairement. Mais c'était pas mal sa première fall du combat, là, entre vous et moi. Fait que... Tu sais, puis c'est justement dans le combat d'après Duraev contre Kopilov que c'est fucking Jason Herzog qui est là. Puis là, t'as Duraev qui lève Kopilov, puis Kopilov qui te fait un fence grab là, horrible, un fence grab dégueulasse. Puis Jason Herzog arrête le combat, les remet dans la position où le gars, il a littéralement les deux mains lockées en arrière des jambes du dude. Puis il dit, t'as pas le droit de fence grab, reprenez de là. Fait que basically, il donne un takedown gratuit à Albert Duraev qui réussit après à gagner le round 18. C'est de même qu'il faut que t'arbitres. Le gars s'est fait voler un takedown par un fence grab. Automatiquement, tu réagis, t'arrêtes le combat. Pas de niaisage, tu les remets dans la position. Bang, le gars complète son takedown, le combat continue. C'est bien géré, c'est bien officié. Tu viens pas de prendre le contrôle du combat. Genre dans le sens de rendre le combat à propos de toi parce que oui, Eliseu Zaleski dos Santos aura une incroyable performance. Oui, Benoît Saint-Denis est tough, 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 comme personne n'est tough. Puis il faut vraiment, tu sais, le commander pour ça, puis tout. Mais c'est quoi l'histoire de ce combat-là? C'est l'arbitre. C'est l'arbitre qui n'arrête pas le combat quand le combat doit être arrêté, qui laisse Benoît Saint-Denis prendre des quantités industrielles de dommages, qui enlève un point out of nowhere. Puis, à un moment donné, il y avait tellement de merde qui se passait dans le combat à cause de l'arbitre que l'histoire du combat s'est en allée de « Oh, regarde ce fighter-ci qui accomplit ça. Oh, regarde ce fighter-là qui accomplit telle autre chose. » Puis c'était « Regarde le style d'arbitre d'incompétent de cave qui est là en train de tout scraper. » Fait que c'est un peu plate pour les gars parce que même Benoît Saint-Denis là, qui arrive dans l'UFC invaincu puis qui se fait complètement péter à gueule puis qui réussit à faire un comeback plus tard dans le combat. Puis non, il gagne pas pantoute, mais quand même démontre du cœur puis démontre une raison d'être excité pour son futur dans l'UFC. Puis au lieu qu'on soit en train de parler de ça, on est en train de parler d'à quel point le style d'arbitre, c'est un attardé mental. Fait que c'est vraiment plate pour Benoît Saint-Denis puis pour Eliseu Zaleski dos Santos. Mais par exemple, il faut que je donne un gros shout-out à l'UFC puis à la commission. Je pense que l'UFC est la commission là-bas, si je ne me trompe pas. Mais bref, il commence à avoir de plus en plus de combats à Abu Dhabi. Fait que peut-être qu'il est rendu avec une commission athlétique là-bas. Je ne le sais pas vraiment. Mais bref, les gens en charge n'ont pas niaisé. Puis après ce combat-là, ils te l'ont collissé dehors, ce ref-là. Sa soirée était terminée, puis c'était fini. Surtout que dans le combat d'après, c'est lui qui était supposé être à la place. C'est que s'il met la vaseline, puis tout sur le fighter, puis il check le mouthpiece. Puis Chris, il était même pas là. Fait que le chercheur en arrière, je ne sais pas si ça en allait fumer bat ou de quoi, c'est si attardé là. Mais bref, il n'était pas là pendant tout ce ref-là. Fait que heureusement, ils ont mis un terme à sa soirée. Mais, tu sais, drôle de situation. On va enchaîner rapidement avec Shamil Gamzatov, Mikhail Oleksychuk. C'est fou comment Gamzatov a instantanely gas out dans ce combat-là contre Oleksychuk, qui est tellement le plus petit des light heavyweight, mais qui met tellement un pace sur les gens qui réussit à en gas out beaucoup comme ça. Puis, très belle performance pour lui. Il inflige la première défaite de la carrière à Shamil Gamzatov. Puis, il continue à être un des très bons light heavyweight qui n'est pas ranké dans le top 15. Ça nous mène à Makwan Amirkhani, Lerone Murphy. Makwan commence ça, l'under takedown domine complètement le premier round. Murphy, un peu comme Jan Błachowicz dans le premier round du combat, n'a pas l'air d'être trop badré avec ça, honnêtement. Essaye de défendre, essaye de ne pas complètement se mettre dans la marde et donner une soumission à Makwan parce qu'il sait que Makwan est très fort en début de combat pour se faire une niaiserie. Là, puis quand les sons secs, tout le monde n'est pas trop sweaty, il est capable de venir intervenir. Puis c'est là qu'il vient chercher la majorité de ses soumissions. Fait que le round, il est resté tranquille. Il n'a pas trop rien donné tout en a gagné absolument pas. Puis il s'est dit dans sa tête, « Toi, mon écœurant, la prochaine fois que tu t'essayes de shooter takedown sur moi, m'a t'avoir. » Et puis, début du deuxième round, lance une combinaison dans le vide. Là, c'était un gros setup. J'ai vu des gens un peu sur Twitter tweeter « Ah, Makwan s'est littéralement KO lui-même en se mettant la tête dans le genou du gars. » Non, les boys, ils n'avaient pas vu comme faux. Laurent Murphy savait qu'à la seconde près qu'il allait lancer ses points, Makwan allait shooter pour passer en dessous de ses points, pour le shooter, pour l'amener au sol. Donc, il s'est servi de ça en lançant. C'est jamais des punches qu'il voulait qu'il lande. Il les a lancés en shadow boxing, littéralement, dans le vide, juste pour que Makwan dise « OK, c'est mon clou, take down. » Puis, il te loadait un genou en arrière de ça. Puis, man, son read était parfait parce que c'est exactement ce qui est arrivé à la seconde près qu'il a laissé aller ses mains dans le vide. Makwan a shooté, puis t'as le genou qui arrivait en arrière de ces deux punches-là. Puis honnêtement, scary knockout. Là. Vraiment scary knockout que littéralement, au moment où la décision s'en allait être annoncée, Makwan dormait encore à terre puis ça devait faire 2 minutes que le combat était fini. Là. Scary knockout. Vous checkerez ça, ça roule sûrement sur les Twitter. Puis tout, c'était un des combats gratuits sur la carte. Et anyway, toute la carte était gratuite aux États-Unis. Fait que vous allez voir les highlights des combats partout sur Twitter. Puis tout. Fait que tout ça pour dire... Une grosse performance de Laurent Murphy. Ce gars-là, il est scary. C'est un des prospects 145 livres, man, que... Tabarnouche, man. Moi, honnêtement, je signerais pas mon nom en bas d'un contrat pour me battre contre ce gars-là. Il a affronté Makwan Amirkani, Zubera Tugukov, Ricardo Ramos. Il a que des gros noms sur sa fiche depuis qu'il est rentré dans l'UFC. Puis le gars, il a un draw à son premier combat parce qu'il est arrivé tellement off à son premier round qu'il s'est fait 18, mais il a quand même gagné 2 autres rounds d'après pour se gagner un draw dans un des combats où c'est un des draws les plus gagnés de l'histoire. Là, parce qu'il s'est tellement fait démonter au premier round qu'il était genre, man, il gagne jamais ce combat-là. Fait que le fait qu'il gagne les 2 autres rounds, il a gagné un draw comme jamais personne n'a gagné un draw. Ensuite, ben, Ouyao Zong, André Petroski, écoute, c'était pas vraiment compétitif, mais honnêtement, genre Ouyao Zong qui réussit à se relever puis à faire un peu de dommages ici et là, ça montre qu'il y a des grosses lacunes chez Petroski qui est un très bon grappler, mais le gars, dès que ça s'est mis à moins bien marcher avec son grappling, lançait des bombes, donnait tout ce qu'il y avait dans chaque coup de poing, puis c'est complètement épuisé. Puis heureusement pour lui, il affrontait un gars qui n'a aucun grappling, fait qu'il était capable de littéralement chercher des takedowns pour se reposer au sol, puis reprendre un peu d'énergie, puis comme ça, tu sais, gagner le combat de façon assez dominante. Mais honnêtement, il y a des grosses lacunes là, chez André Petroski, que Ouyao Zong ne pouvait pas... exposé parce que c'est littéralement un combattant qui a maintenant une fiche de 3 victoires, 3 défaites, puis qui n'a absolument rien à voir dans l'UFC. Mais Petroski s'est quand même sauvé avec la victoire, mais c'est sauvé avec la victoire dans un combat qu'il ne pouvait pas perdre. Ça nous mène au premier combat. Probablement mon deuxième combat préféré sur la carte, là, je vais vous le dire. Puis j'aimerais ça être mad après la décision, mais je ne vous cacherai pas que j'avais un parlay avec Tajir Ulanbekov dedans. Fait, quand ils ont nommé son nom comme gagnant, j'étais genre Chris. Mérite pas de gagner pantoute, lui, mais OK, mon parlay est encore vivant, je vais probablement pas perdre d'argent. Puis, comme de fait, ce parlay-là était gagnant, parce que je pense que mes autres bêtes que j'avais là-dessus, c'était justement Laurent Murphy puis André Petroski. Fait que je l'ai caché, cette bête-là, heureusement, mais c'était par la peau des fesses. Parce que oui, Tajir Ulanbekov a eu genre 10 minutes de top control, puis oui, Tajir Ulanbekov a eu 4 takedowns, mais tout le reste des choses significatives, c'est Nascimento qui les a eues. Puis, honnêtement, c'est vraiment une hometown decision parce que non, tu sais, Tajir Ulanbekov ne vient pas d'Abu Dhabi. Mais si vous avez entendu la foule à soir, Abu Dhabi, c'est pratiquement hometown pour tous les combattants qui viennent du Daghestan ou de la Tchétchénie ou de la Russie ou de la Pologne ou tu sais, l'Europe de l'Est en général, mais surtout un home base pour les combattants russes. Et puis, tu sais, n'y a pas grand monde qui vont regarder ce combat-là et dire que Tahjir Ulanbekov a gagné parce que littéralement, il a passé 10-15 minutes sur le top, mais il a passé 10-15 minutes à défendre des Kimura, défendre des triangles, défendre des armbars, défendre des sweeps. Il s'est fait passer le sweep de la pendule, il s'est fait passer des Kimura sweeps, il s'est fait passer toutes sortes d'affaires. Alan Nascimento ressemblait là, à son partenaire d'entraînement, Charles Oliveira, dans le sens qu'il lançait soumission après soumission sur son dos, puis il avait l'air littéralement de quelqu'un qui acceptait les takedowns pour lancer ces soumissions-là. Puis, bien honnêtement, tu sais, des fois, tu dis au fighter, mais tu sais, t'aurais dû gagner, mais prochain coup, fais pas telle affaire. J'ai l'impression que ce combat-là se déroulait à peu près n'importe où, sauf là-bas, puis c'est Alan Nascimento qui le gagnait, bien honnêtement. Parce que, comme je dis, c'est dur de regarder ça et de dire, oh non, Ulanbekov va vraiment, tu sais, gagner. Je pense qu'il y a juste le troisième round que tu peux lui donner, parce que oui, il a laissé un peu aller ses mains, il a landé quelques prise de ground and pound, ça a été le combat où Nascimento était le moins capable de lancer des soumissions de sur son dos dans ce troisième round-là. Donc, je pense qu'il pouvait le donner à Tahjir, mais c'est littéralement le seul round que tu pouvais donner parce que les deux premiers rounds, oui, ils ont passé sur le top, mais ils ont passé à défendre des soumissions puis des tentatives de soumission proches, là, pas « je spam des armbars, je spam des triangles puis je fais passer ma garde allègrement à chaque fois que je lance un triangle parce que, tu sais, c'est des beaux triangles, des beaux armbars, des sweeps, des choses vraiment tangibles et dangereuses pour Tahjir Ulanbekov. Fait, je pense pas que c'est une bonne décision. Je pense que c'est Nascimento qui a gagné le combat, mais comme je vous ai dit, mon parlay est resté en vie puis plus tard, il a caché. Fait que c'est pas moi qui va chialer là-dessus, malheureusement, vu que j'avais des financial incentives, comme on dit en anglais. Je trouvais pas le mot en français. Fait que c'est ça. C'était mes réactions d'après-combat. Vraiment une belle carte. Top to bottom, je pense qu'on a eu de la belle action. Hasbulla a complètement volé le show. Glover Teixeira, à l'âge de 42 ans, est rendu champion du monde de l'UFC. Peter Yan, Corey Sandhagen nous ont donné à la fois exactement ce que j'attendais, mais aussi un de mes combats préférés que j'ai vu dans les dernières années. Fait que, je pense qu'on ne peut pas dire mieux. Puis la seule affaire qu'on peut dire en terminant, c'est que la semaine prochaine, la carte est probablement encore plus stack puis promet encore probablement plus d'action. Fait que, man, on a mangé notre vache maigre, là. On a fait tout ce qu'on avait à faire. On a enduré des hosties de main event de marde puis des cartes de marde pendant des mois. Mais c'était pour cette carte-là en fin de semaine puis la carte de la fin de semaine prochaine. Puis je dirais pas que c'était worth it parce que selon moi, ça l'était pas. J'ai perdu du temps les semaines d'avant qui me sera jamais remboursé. Mais des cartes comme celle qu'on vient d'écouter cet après-midi puis que la carte potentiel qu'on va avoir la fin de semaine prochaine, on ne peut pas vraiment demander mieux que ça. Fait que je pense qu'on est choyé. Soyez contents de ce qu'on a vu. Profitez de vos parties d'Halloween ou de whatever ce que vous allez faire. À ce soir, il est 6h du soir et il n'y a déjà plus de combat. C'est quand même magnifique. Bonne soirée à tous. Profitez-en et on se voit demain pour le Hype Oak Podcast.